Le marché Broussard à Boulary attire de plus en plus de monde et se diversifie avec de nouveaux stands d'artisans qui se mêlent aux producteurs locaux. À l'approche d'Octobre Rose, la Ligue contre le cancer organise ses actions à venir pour sensibiliser à la maladie, un calendrier qui doit s'adapter cette année au contexte. Gilles Brial, le deuxième vice-président de la province Sud et l'un des porte-paroles des loyalistes, était vendredi l'invité du magazine Transparence. Il a notamment été interrogé sur l'actualité politique et les conséquences économiques des émeutes. 33 morts, 195 blessés, c'est le bilan encore provisoire des frappes israéliennes à Beyrouth, au cours desquelles le leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a été tué. L'armée israélienne entend poursuivre sa destruction systématique des infrastructures militaires du groupe terroriste. En métropole, lors des rencontres de la gauche, l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve ferme une nouvelle fois la porte à une alliance avec LFI et s'apprête à s'afficher aux côtés de François Bayrou. Football, Monaco reste à la hauteur du PSG en tête de la Ligue 1. Les Monégasques l'ont emporté face à Montpellier 2-1. Et puis en Calédonie, les jeunes karatékas sont de retour sur les tatamis avec une journée d'exercice proposée à la salle d'arts martiaux de Dambéa. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal, rendez-vous devenu mensuel. Le marché Broussard s'exporte une fois de plus au Mont d'Or. De nombreux stands étaient présents à Boulary pour présenter des produits alimentaires, mais aussi des produits artisanaux. Charlotte Coulson.
La clientèle est plus nombreuse chaque semaine. Ce matin, les visiteurs se baladaient entre les exposants au rythme de la musique locale. Devant eux, du miel, du poisson, des fruits et des légumes, mais aussi de nouveaux produits et de nouvelles têtes derrière les stands. Le marché se diversifie, comme l'explique Olivier Surgent, coordinateur du marché de Boulary.
On est assez heureux effectivement d'avoir beaucoup de monde aujourd'hui. C'est bien fréquenté, c'est bien échalandé. On a trouvé des produits qui sortent un petit peu de l'ordinaire. On a vraiment des clients avec des produits, c'est assez hétéroclite, mais toujours vraiment axé sur l'alimentaire, un petit peu sur l'artisanat également. On est satisfait parce que c'est encourageant pour les commerçants surtout qui ont du mal aujourd'hui à générer des chiffres d'affaires corrects. Et c'est vrai que ces journées-là nous permettent de remonter un petit peu la pente et puis de pouvoir réenvisager l'avenir avec une meilleure sérénité.
Et parmi ces nouveaux exposants, la bouquinerie des petits propose des livres d'occasion. Infini Partage vend des objets d'art et de décoration et l'association Artieux confectionne des bijoux à la main venus tout droit de Thio.
Je me suis dit qu'il fallait peut-être mettre le livre là où on ne l'attend pas. D'où l'idée d'ouvrir cette boutique sur le marché de Boulard. C'est à ma grande surprise, il y a beaucoup de partage autour du livre. Les gens sont satisfaits qu'au marché, voilà, où on n'attend pas le livre, ils puissent aussi acheter, on va dire, des nourritures spirituelles, on va dire, et psychologiques.
C'est le premier lancement sur un marché pour moi. Parce que les réseaux sociaux et le site internet, c'est une chose, mais c'est vrai que le contact client, c'est complètement différent. Et les gens ont besoin de voir, de toucher, c'est important aussi.
En fait, c'est de nous faire découvrir notre artisanat et de faire en sorte qu'on propose autre chose que ce qu'il y a ici dans le marché. Ça change et puis comme ça au moins, les habitués voient autre chose, quoi.
Et le marché Broussard de Boulary, c'était donc ce matin de 6h à 12h et à retrouver une fois par mois au Mont d'Or.
Sur la côte ouest, le rendez-vous du jour sur les hauteurs de Farino, c'était le marché de Mamie qui célébrait aujourd'hui les jardins. C'était la thématique de ce dimanche pour la troisième fois de l'année, avec un public qui a répondu présent. C'est ce que nous a dit Gisèle Nerly, responsable du marché de Farino.
Eh ben, nous sommes très heureux parce qu'on a eu beaucoup de monde. C'était même étonnant parce qu'en ce moment, c'était un peu faible ces derniers temps. Mais en tout cas, on a eu beaucoup de monde, une très belle journée, ventée, ça fait qu'il fait pas chaud. Les gens se sont déplacés, ont beaucoup acheté des plantes à des prix très compétitifs, de très belles plantes. Voilà, donc tout le monde est heureux d'avoir pu vendre un peu et puis d'avoir pu se balader, échanger, se promener sur Farino. Voilà, on avait déjà des pépiniéristes, c'est particulier de partout, mais aussi des gens qui se baladent. On a eu pas mal de gens de Bouraille, il y a Bouraqué, Port-Ouingui, tout ça, beaucoup de gens se sont baladés. Et puis, ont bien vendu, donc ça s'est bien passé.
Des propos recueillis par Mickaël Juneski, le marché de Mamie qui se déroulait jusqu'à midi sur l'esplanade de la mairie de Farino. À l'approche d'Octobre Rose, la Ligue contre le cancer prépare une nouvelle fois des actions dans le cadre de la lutte contre la maladie, des opérations qui débuteront dès mardi prochain, Mickaël Juneski.
Oui, chaque année, de nombreux rendez-vous sont organisés pour sensibiliser le grand public face à ce sujet de santé qui concerne toute la population. Néanmoins, l'association a dû s'adapter, étant donné le contexte que connaît le territoire et la crise insurrectionnelle qui a bouleversé la vie des Calédoniens et d'autant plus les personnes malades. Il y aura des opérations menées donc dans la mais aussi en Brousse et aux îles. C'est ce que nous a dit Jean-Maurice Sautériau, le président de la Ligue contre le cancer.
Toujours des ouvertures, toujours apporter de l'information et essayer d'apaiser certaines choses par rapport au traitement, surtout, et puis de comprendre un peu mieux la prise en compte. C'est vrai que c'est quelque part aussi pour donner aussi envie aux gens de s'exprimer, d'apporter un peu les informations que l'on peut par rapport à ce que l'on vit aussi aujourd'hui. Et puis, ça va permettre un peu aussi d'apporter un peu de positivité. C'est vrai que c'était pas simple pour les patients, surtout de pouvoir se déplacer. Je vous dis tout de suite, c'est pas facile. Même pour accompagner les personnes, c'est un peu plus compliqué que les années précédentes.
Jean-Maurice Sautirio, le président de la Ligue contre le cancer, notez d'ores et déjà que la traditionnelle Nouméenne, dans le cadre d'Octobre Rose, la grande marche populaire contre le cancer du sein, devrait être reportée au mois de novembre si les conditions le permettent.
Hier soir était célébrée une soirée pétale de rose à la chapelle Sainte-Thérèse du Vallon d'Or, l'occasion pour les fidèles d'écrire une lettre à Sainte-Thérèse et de lui envoyer leurs vœux pour l'année à venir, Charlotte.
Une fois par an, les paroissiens de Saint-Louis se réunissent au mois d'octobre pour célébrer le mois de naissance de la Sainte-Thérèse. Des prières et des chants animaient la soirée débutée hier à 18h. Puis est venu le temps d'écrire, puisque les fidèles rédigent une lettre dans laquelle ils expriment leurs vœux pour l'année à venir. Une célébration qui prenait tout son sens, particulièrement en ce moment. De quoi redonner de l'espoir à chacun pour les temps qui viennent. Tiffany Tarayaou fait partie de la paroisse de Saint-Louis et était présente hier soir.
Il y avait une ferveur, c'était attendu, les gens en ont besoin. Surtout en ce moment, c'était un super moment. Il y a beaucoup d'espoir, beaucoup d'envie d'avancer. Surtout, et de passer vraiment à autre chose, et puis qu'on puisse retrouver la paix. Après, au niveau des lettres, je ne sais pas ce qu'ils mettent à l'intérieur parce qu'on ne les ouvre pas. C'est vraiment entre eux et la petite Thérèse et Jésus. Mais ils étaient apaisés. Il y avait un moment d'apaisement. Ils avaient besoin. Il y a vraiment besoin de ce genre de moment.
Et les fidèles pourront redécouvrir leurs vœux l'année prochaine, en septembre 2025.
C'est Gilles Brial, le deuxième vice-président de la province Sud et l'un des porte-paroles des loyalistes qui était vendredi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence, Mickaël.
Gilles Brial a d'abord été interrogé sur le refus des loyalistes de s'associer à la délégation interinstitutionnelle qui est actuellement à Paris pour présenter aux plus hautes autorités de l'État le plan quinquennal adopté par le Congrès. Les loyalistes estiment qu'il faut parler d'une seule voix à Paris et ils regrettent que le gouvernement ne soit pas associé à cette démarche, explique Gilles Brial.
Au Congrès, nous avons voté ce plan de redressement de l'économie, de relance, de reconstruction de la Nouvelle-Calédonie, qui fait appel à l'aide de l'État sur 5 ans. 500 milliards accessoirement de francs pacifiques, donc d'aide de l'État, mais qui n'a pas été négocié avec l'État, qui a juste pour l'instant été décidé par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. On a décidé de dire à l'État que ce serait bien qu'il nous donne 500 milliards. Ça a été voté par le Congrès, mais en parallèle, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a travaillé sur un plan, le S2R, qui est important puisque lui aussi vise à relancer l'économie calédonienne. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut que ces deux plans se rejoignent. Ce qui est important aujourd'hui, vu l'état économique, social, catastrophique de la Nouvelle-Calédonie, il doit y avoir qu'une seule voix à Paris.
Gilles Brial ajoute que les loyalistes ne comprennent pas l'intérêt d'aller à Paris avec l'UC qui a créé la CCAT, alors que le Palika est lui resté à Nouméa. De toute façon, dit-il, la Calédonie a besoin de l'aide de l'État.
Paradoxalement, c'est que les actes terroristes qui ont été menés par des indépendantistes extrémistes ont fait qu'aujourd'hui la Nouvelle-Calédonie n'a jamais été aussi dépendante de la France. On a besoin tous les jours de l'action de l'État en Nouvelle-Calédonie et on a besoin de plus en plus des moyens financiers de l'État en Nouvelle-Calédonie. C'est ça la réalité. Nous n'avons pas les collectivités calédoniennes, nous n'avons pas les sociétés calédoniennes ni les contribuables calédoniens les moyens de redresser notre économie, les moyens ne serait-ce que de survivre aujourd'hui. On a besoin de l'État. Et c'est pour ça que je dis que cette aide de l'État, il est massif, il devra être massif, il doit être rapide, mais dans un contexte budgétaire national très difficile.
Et quand on l'interroge sur la violence insurrectionnelle qui a frappé le territoire il y a plus de 4 mois, Gilles Brial n'hésite pas à parler d'actes de terrorisme.
Les choses sont claires pour moi. Quand vous avez une bande de personnes qui vont brûler et piller l'économie du territoire, quand ils tirent sur des gendarmes à balles réelles, quand ils vous jettent dessus des cailloux, des cocktails Molotov, pour moi c'est du terrorisme. Il ne faut pas banaliser ces actes-là. Nous, les Calédoniens, on a une capacité de résilience qui est phénoménale. Et c'est important de ne pas oublier ce qui s'est passé et la violence de ces actes-là. Pour moi, c'est des actes de terrorisme avec une bonne pointe de racisme en plus, parce que c'était quand même régulièrement accompagné de mots pour nous inciter à partir d'ici comme si on n'était pas ici chez nous.
Des émeutes qui ont des conséquences énormes pour la province sud, souligne son deuxième vice-président, sans parler des plus de 3,5 milliards d'impact sur les bâtiments et les routes.
On a deux conséquences majeures. La première, c'est qu'on a une perte de la qualité du service à la population qui est liée à tout ce qui a été cassé, pillé, brûlé dans les équipements publics, que ce soit des équipements d'accueil de nos directions qui recevaient du personnel ou des équipements sportifs ou des équipements médicaux ou d'accueil social. Donc on a moins de services et on a en parallèle, lié à la catastrophe économique, moins de recettes fiscales. Et donc du coup, on est obligé d'arrêter complètement des pans entiers des politiques provinciales. Des choses qu'on a mis des années à construire, en quelques semaines, on a dû les arrêter, et dans l'ensemble des secteurs.
Gilles Brial rappelle les priorités de la province pour venir en aide aux salariés, pour financer les navettes maritimes ou pour sauvegarder le secteur de l'enseignement. Et il souligne que l'on va mettre des années pour retrouver le niveau d'avant le 13 mai. Interrogé sur l'important dispositif de forces de l'ordre qui a permis que le 24 septembre se déroule dans le calme, il estime que ce n'est pas le moment de s'en priver et il évoque le devenir du dispositif des voisins vigilants.
L'objectif, c'est d'avoir un retour progressif à la vie normale. Mais ça ne peut pas s'arrêter du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'aucun de nous ne s'est mobilisé des nuits entières pour se faire plaisir. On l'a fait pour protéger nos maisons, pour protéger nos familles. Donc là où il y a encore des tensions, on va lever progressivement nos barricades. L'objectif, c'est de le faire dans les jours qui viennent, mais maintenir des dispositifs de vigilance. Et on a demandé en contrepartie à l'État qu'il accentue sa présence sur le terrain. Et ce qui compte pour nous, c'est de pouvoir se remobiliser si on sent qu'il y a une volonté à nouveau de débat pour qu'on puisse reprotéger nos quartiers. Encore une fois, heureusement que les Calédoniens se sont mobilisés. Moi, je ne sais pas ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu cette mobilisation. Ce qui est sûr, c'est qu'on aurait eu des affrontements très violents avec beaucoup plus de morts s'il n'y avait pas eu cette mobilisation et cette vigilance des premiers jours, là où les forces de l'ordre ne pouvaient pas intervenir parce qu'ils n'étaient pas assez nombreux.
Au chapitre politique, le deuxième vice-président de la province sud se réjouit du changement intervenu à la présidence au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Il estime que Roquamitan ne pouvait pas rester en place.
Ça fait des années qu'il préside le Congrès, mais on a eu le 13 mai et on a eu certains élus indépendantistes qui ont été dans l'incapacité de condamner ce qui s'est passé, de reconnaître que ce sont des actes terroristes, que rien ne justifie ce qui s'est passé au niveau de destruction en Nouvelle-Calédonie et au niveau des pertes de vie humaine. Le président du Congrès, c'est la première institution de Nouvelle-Calédonie. Il représente les Calédoniens à l'extérieur. On ne pouvait pas laisser Roquamitan représenter les Calédoniens alors que les Calédoniens étaient en souffrance et qu'ils n'étaient pas capables de le reconnaître. Donc il fallait qu'on fasse tout pour ça.
Le porte-parole des loyalistes qualifie encore de provocation et de basse manœuvre politicienne la nomination de Christian Théin à la présidence du FLNKS. Il déclare par ailleurs que l'État doit prendre une initiative pour la reprise des discussions politiques. Dans cette perspective, les partisans de la France avancent sur un projet commun, a-t-il affirmé, en récusant le terme de non-indépendantiste pour privilégier celui d'autonomiste.
Une interview de Gilles Brial à retrouver en audio et vidéo sur notre site internet. Elle sera rediffusée également ce soir, juste après notre édition de 17h45. Il est 12h13. Nous marquons une première pause dans ce journal avant de développer l'actualité internationale, nationale et régionale marquée par les frappes israéliennes au Liban. On se retrouve après une page de pub.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta, à côté de Mazda.
Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
RRB toujours à vos côtés. Depuis le début des émeutes qui secouent la Nouvelle-Calédonie, les équipes de Radio Rythme Bleu se sont mobilisées pour vous informer, vous accompagner et pour faire vivre votre antenne.
Malgré l'insécurité, les tensions et les difficultés de déplacement, nous nous sommes engagés pour répondre à votre confiance et à votre fidélité.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
On vous souhaite un excellent début d'après-midi et la suite de votre journal. On retrouve Isabelle Pelletier.
Avec l'actualité dans le monde, nous avons réglé nos comptes avec le responsable du meurtre d'innombrables Israéliens et de nombreux citoyens d'autres pays, parmi lesquels des centaines d'Américains et des dizaines de Français. C'est ce qu'a déclaré Benjamin Netanyahou après l'élimination du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Le Premier ministre israélien s'exprimait dans une déclaration télévisée depuis Tel Aviv et faisait référence aux nombreux attentats terroristes commis par le Hezbollah. Tsahal entend maintenir la pression sur le Hezbollah et poursuivre la destruction de ses infrastructures militaires et ses caches d'armes. Daniel Agari est le porte-parole de l'armée israélienne.
Ce n'est pas encore terminé. Le Hezbollah a encore des capacités. Aujourd'hui encore, nos pilotes frappent les infrastructures terroristes du Hezbollah dans tout le Liban. Il s'agit de capacités stratégiques que l'organisation a développées au fil des ans grâce au financement et au conseil de l'Iran.
De son côté, le Liban a annoncé 33 morts et 195 blessés dans les frappes israéliennes de samedi qui avaient détruit, on le rappelle, 6 immeubles et décrété 3 jours de deuil national après l'assassinat d'Hassan Nasrallah. Enfin, le président américain Joe Biden a lancé à son tour un appel à un cessez-le-feu après cette nouvelle journée de frappes israéliennes contre le Hezbollah au Liban. Au Royaume-Uni, le gouvernement de Keir Starmer a connu sa première démission. La députée Rosie Duffield a quitté le parti travailliste en l'accusant d'hypocrisie flagrante après la polémique sur les cadeaux reçus par plusieurs de ses membres, le sordide, le népotisme et ce qui ressemble à de l'avarice sont sans limite, a-t-elle ajouté après les révélations sur des cadeaux acceptés par Keir Starmer de 100 000 livres sterling, soit plus de 14 millions de nos francs, au moment où son gouvernement choisit de restreindre le chèque énergie pour des millions de retraités. L'actualité en métropole avec la politique. Une partie de la gauche s'est donné rendez-vous dans l'Aude aujourd'hui. De nombreuses figures et des représentants du Parti socialiste se sont rassemblés autour de Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, pour essayer de rassembler. Mais cette volonté d'unir la gauche ne s'adresse pas à tout le monde. L'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve a fermé une nouvelle fois la porte à une alliance avec la France insoumise qu'il juge responsable de l'échec de la gauche à réunir une majorité lors des législatives.
Je pense qu'il y a une conscience chez beaucoup de personnalités de gauche que l'alliance avec la France insoumise et la domination de la France insoumise sur la gauche est un extraordinaire obstacle à l'avènement de la gauche au gouvernement de la France et que non seulement c'est un obstacle, mais que c'est aussi une machine à fabriquer du vote Rassemblement National dans des quantités industrielles. Et donc il faut désormais faire la clarté. Il faut faire la clarté parce que la position de la France insoumise sur beaucoup de questions politiques, sur beaucoup de sujets sur lesquels les Français manifestent leurs préoccupations, sont des positionnements qui éloignent un très grand nombre d'électeurs de la gauche.
Après ce passage aux rencontres de la gauche, Bernard Cazeneuve doit s'afficher ce dimanche aux côtés de François Bayrou lors du discours de clôture de l'université de rentrée du Modem dans le Morbihan. 27 députés macronistes s'opposent à toute hausse d'impôts dans un texte publié par le journal La Tribune dimanche. Ces élus du groupe Ensemble pour la République, dont les anciennes ministres Aurore Berger et Marie Lebec et l'ancien président du groupe Sylvain Maillard, jugent impensable que l'alliance du Bloc central finisse par renoncer à la stabilité fiscale alors que le Premier ministre Michel Barnier envisage de faire contribuer davantage ceux qui le peuvent de manière exceptionnelle et temporaire. L'actualité dans la région a papillonné. De nouvelles réactions ont été enregistrées suite au tir par la Chine d'un missile balistique intercontinental qui est tombé en mer avec précision dans la zone maritime prédéterminée à l'ouest de la Polynésie après avoir survolé l'océan Pacifique. On écoute la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Dans un communiqué publié sur ses réseaux, le tapoura de l'ancien président de la Polynésie, Édouard Fritsch, vient à son tour de dénoncer ce tir. Cette expérimentation militaire est calculée, ciblée et démonstrative, a déclaré Édouard Fritsch. La Chine, a-t-il poursuivi, veut être une grande puissance mondiale et rien de ce qu'elle entreprend n'est le fruit du hasard. La Chine vient d'afficher clairement ses intentions d'être en capacité de menacer nos îles, a-t-il conclu. Évoquant lui aussi ce tir de missile, le sénateur autonomiste Teva Rofritsch a déclaré que, je le cite, « il s'agit pour moi d'un acte de portée militaire qui a semé le trouble dans nos îles paisibles du Pacifique Sud. L'État doit rassurer nos populations et préserver la paix dans notre région », a-t-il insisté. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Et ce tir d'un missile balistique intercontinental par la Chine a aussi suscité des protestations de la part d'autres pays comme le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ou encore les îles Fidji, alors que la région est traversée par des enjeux géostratégiques de grande ampleur. 12h19, une seconde pause dans ce journal avant de développer l'actualité sportive, internationale et calédonienne. On se retrouve tout de suite après la pub.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1 500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Info Week-end avec le sport.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Et le sport, c'est d'abord du football avec la sixième journée du championnat de France, Mickaël Juneski.
Avec Monaco qui reste à la hauteur du PSG en tête de la Ligue 1. Les Monégasques l'ont emporté sur le fil face au club de Montpellier. Une victoire de Monaco 2-1. De son côté, Lille a battu Le Havre 3-0 pour se replacer au pied du podium à la quatrième place. En revanche, Lens et Nice ont fait match nul 0-0. Il restera encore à suivre ce soir pour le compte de cette sixième journée de Ligue 1. Toulouse, Lyon, puis Nantes-Saint-Etienne, Angers-Reims et enfin Strasbourg-Marseille. On rappellera du week-end les succès d'Auxerre sur Brest 3-0 et du Paris Saint-Germain sur Rennes 3-1. Et puis le football toujours, c'est aussi le traditionnel Tour d'Europe du ballon rond. On signalera qu'en Angleterre, les Gunners d'Arsenal ont dominé Leicester 4-2. Liverpool reste en tête après avoir battu Wolverhampton 2-1. Dans le championnat allemand, un nul entre le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen, 1-1. En Italie, la Juventus a dominé Genoa 3-0 et en Espagne, le FC Barcelone s'incline à Osasuna 4-2. La belle affiche à venir, c'est le derby madrilène demain matin, l'Atlético Madrid contre le Real Madrid de Kylian Mbappé.
On passe au rugby avec la quatrième journée du top 14.
Et ce succès ce matin de la section paloise face au Stade français 30-16. Les franciliens qui sont rétrogrades, ils sont à l'avant-dernière place du classement. De son côté, Perpignan a étrié Clermont sur le score de 33-3. Le manager des Clermontois, Christophe Urios, n'y va pas par quatre chemins pour qualifier l'attitude de son équipe.
Aujourd'hui, on a pris une branlée. Donc, quand tu prends une branlée, tu la fermes, tu te remets au travail dès mardi et tu prépares le match après.
Christophe Urios, manager de l'AS Clermont. Les autres résultats du jour. Bayonne qui a battu Montpellier sur le fil, 28-27. Victoire serrée également de Lyon sur Castres, 40-38. La Rochelle a infligé sa deuxième défaite d'affilée au Racing 92-17-16. Enfin, Toulon l'a emporté sur le promu Vannes 54-19. Et puis le rugby toujours, c'est aussi le tournoi des nations de l'hémisphère sud, remporté hier soir par les Springboks. Les Sud-Africains se sont imposés sur les Pumas argentins 48-7. Les All Blacks, de leur côté, ont battu les Wallabies australiens 33-13. La Nouvelle-Zélande finit donc deuxième du classement, juste devant l'Argentine et l'Australie qui termine à la dernière position.
Un coup d'œil au reste de l'actualité sportive avec d'abord les sports mécaniques.
Et on commence par le championnat du monde de MotoGP. Les pilotes qui préparent le Grand Prix d'Indonésie. Le leader du championnat, Jorge Martin, a réalisé hier soir le meilleur temps des qualifications pour s'élancer en pole position devant l'Italien Marco Bezzecchi. Les deux Français Fabio Quartararo sur Yamaha et Joan Zarco du team Honda LCR ont réalisé un tir groupé. Ils partiront respectivement des 6e et 7e positions sur la grille de départ. De son côté, Francesco Bagnaia a remporté par la suite la Sprint Race, une course sprint où le Français Joan Zarco a réussi à se classer 8e. On l'écoute.
Très content. Les points là de la sprint, ils font tellement plaisir. Après ce rythme maintenu en course, j'étais content que ça se termine. Les tours ont passé vite, mais en fait, quand on s'est mis à rouler en 30.4, 30.5, 30.6, j'étais au max du max.
Et l'autre Français, Fabio Quartararo, a quant à lui terminé 12e de cette course sprint. Le Grand Prix d'Indonésie sera à suivre ce soir dès 18h, heure de Nouméa. En rallye, le championnat du monde WRC fait étape au Chili et Sébastien Ogier a dû abandonner. Il avait déjà perdu près de 2 minutes, ainsi que la tête du classement pour crevaison. Il est une nouvelle fois parti à la faute. Il a donc dû jeter l'éponge. Le Gallois Elfyn Evans est désormais leader de cette épreuve. Et puis, les championnats du monde de cyclisme sur route et cette victoire de Lotte Kopecky, l'intouchable belge qui a gagné le titre féminin. Chez les messieurs, l'épreuve aura lieu ce soir sur les routes de Zurich. Enfin, pour les fans de sport d'action, le tournoi MMA UFC de Paris avec le combat de Benoît Saint-Denis face au Brésilien Renato Moicano qui a dû être arrêté sur blessure du Français. Benoît Saint-Denis a ainsi subi sa deuxième défaite d'affilée après celle face à l'Américain Dustin Poirier. C'était au début de l'année.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. À Dimbéa, c'est le 98.
Le sport en Calédonie, c'est notamment du karaté avec un week-end de reprise pour la jeunesse.
Après la compétition jeune du samedi, ce dimanche, ce sont les plus petits qui ont profité d'une matinée de partage mise en place par les clubs de Dimbéa et de l'ASPTT Nouméa au complexe d'arts martiaux Jean-Robert Monnier d'Auteuil. Les enfants dès l'âge de 4 ans jusqu'à 12 ans pouvaient découvrir différents aspects de la discipline à travers des exercices ludiques sous la surveillance des encadrants. Les jeunes karatékas ont apprécié.
C'était du combat. C'était plutôt bien, le karaté. Je trouve ça plutôt bien et drôle parce que pour le combat, c'était plutôt très bien. J'ai essayé le parcours, le combat frite et le combat normal. C'est amusant parce que le parcours, tu t'amuses un peu à faire un plongeon dans les cerceaux. Le combat à la frite, tu fais un peu comme si c'était une épée. Le combat, c'est comme si c'était ton ennemi juré que tu combattais.
Et moi aussi, c'est un cours de karaté.
C'est pour un peu se défouler, pour que nous, les enfants, on se défoule, on fait des combats pour s'occuper.
Je trouve que c'est bien pour les enfants parce qu'il y a plein de jeux, on se défoule, on s'amuse. Si on perd, c'est pas grave, c'est pour s'amuser.
Mais moi, ce que j'aime le plus là, c'est que c'est un moment de partage. Il y a quelques clubs qui se rencontrent, on peut partager des choses, mettre des valeurs en commun. Et puis, on peut aussi on peut s'amuser. On est là pour s'amuser, on est là pour se défouler, donc c'est bien.
Voilà pour ces quelques témoignages. Une soixantaine d'enfants ont répondu présents pour cette matinée de pratique au complexe d'arts martiaux Jean-Robert Monnier d'Auteuil.
Un coup d'œil au reste de l'actualité sportive, Michael.
Du tennis de table, les pongistes faisaient leur retour à la compétition hier. Après plusieurs mois d'interruption, la Ligue organisait les championnats de double. Les victoires sont revenues chez les dames à Vanina Santino et Léa Laivan. Jérémy Day et Jérôme Morisseau s'imposent dans le tournoi masculin. Jérémy Day, qui l'a emporté également avec Maëlys Jiret en double mixte. Et puis, du football. Un nouveau match amical pour la sélection en vue de la préparation aux éliminatoires du Mondial. L'équipe de Calédonie a fait match nul face à Yengen. 2-2 hier sur la pelouse du stade Nouma Dele. Enfin, hors du territoire de l'escalade, avec 2 Calédoniens qui gagnent les championnats d'Europe de vitesse de leur catégorie d'âge sous la houlette de Bassam Aouem. Paco Lehmann s'est imposé chez les moins de 18 ans. Gabriel Desbois chez les féminines des moins de 16 ans.